Savez-vous qui nous fêtons aujourd'hui? Ah oui, la Mère de Dieu, bien sûr. Et qui est la Mère de Dieu?
Ah, moi, je sais, c'est la maman du Christ qui est montée au ciel.
Exactement, mon chéri. Exactement. Mais pourquoi elle est montée au ciel? Voilà, elle a été transférée de la vie à la vie. Mais t'es un bon théologien, dis donc. Est-ce que tu l'aimes?
Oui.
Ah, et pourquoi tu l'aimes?
Je sais pas trop.
Tu sais pas trop? Eh bien, c'est le mieux. Quand on sait pourquoi on aime, c'est que c'est pas qu'on aime vraiment. Alors que le véritable amour, c'est quand on sait pas pourquoi. Mais comme toi, tu sais pas trop... Eh bien, aux autres qui croient savoir, je vais le dire. Effectivement, comme Pierre, on a du mal, souvent, à cerner le type d'amour que l'on peut avoir pour la Mère de Dieu. Où on en fait, comment dire, une piété affective, pour caricaturer. Je voudrais citer la réaction d'une personne que j'ai connue, qui appelait la Mère, ma petite maman du ciel. Avec un esprit mièvre, si vous voulez. Puis quand je la regarde, je me dis qu'elle a de beaux yeux. Je ris pour la théologie que ça représente, mais pas pour me moquer de cela. Mais c'est pour montrer, pour vous dire que notre affection, notre amour pour la Mère de Dieu ne peut pas être d'un ordre affectif. Je peux avoir une affection pour vous, les uns et les autres, parce que je vous vois, parce que je vous côtoie. Mais je ne veux pas avoir une affection sentimentale pour quelqu'un que je ne vois pas. Et en disant ça, je me condamne, parce que je devrais la voir. Mais la voir aussi, c'est la voir avec d'autres yeux, pas avec les yeux du cœur, ni avec les yeux de chair. Et là encore, je me condamne, parce qu'en la regardant sur les icônes avec mes yeux de chair, je vois bien aussi qui est la Mère de Dieu. Si on ne la regarde pas d'une manière affective, on a tendance de la voir comme une si grande, si éloigné, si proche de Dieu, qu'on en ferait presque, personne ne le fait, mais je prends cette expression-là pour essayer de vous faire comprendre quelque chose, on la prend comme une presque déesse, comme si elle n'était pas du genre humain, comme si elle était d'ailleurs. Or, ce qui nous rapproche justement, ce qui nous fait proche de la Mère de Dieu, c'est qu'elle est de notre pâte, elle est de notre matière, elle est de notre être. Elle est une femme, comme nous sommes tous des hommes. Alors, comment cerner le type de piété, le type d'amour, le type de relation qu'on peut avoir à son égard? C'est pas si facile que ça. Dans les textes liturgiques, on l'appelle plus grande que les chérubins. Alors apprenez d'abord à aimer les chérubins, après vous pourrez aimer la Mère de Dieu. Mais non, les chérubins sont de l'autre monde, mais la Mère de Dieu, elle est de notre monde. Et pour ça, elle nous est proche. Et je voudrais vous dire quelque chose. Nous savons tous que le Verbe de Dieu a par soumission, par obéissance à son Père, a quitté le ciel sans le quitter véritablement. Il est descendu, il a incliné les cieux, dit-on. Il a incliné les cieux, il est descendu sur terre, il s'est incarné. Il a momentanément abandonné, plus exactement caché, le rayonnement de sa divinité pour se faire véritablement homme sans se déguiser, pour être avec tous les hommes et proche des hommes, dans l'homme. Et bien de la même, ce mouvement-là, à l'inverse, devrait être accompli par les hommes, par l'homme, avec un grand H, mais il a déjà été accompli par la Mère de Dieu, qui, elle, non pas de conditions divines, mais de conditions humaines, a librement choisi, par obéissance au même Père, à vivre de son existence terrestre déjà dans l'autre royaume, dans le royaume de celui qu'elle attendait, comme tous les Hébreux, de tous ses vœux, et qu'elle a porté en son sein parce que justement elle l'attendait ardemment. Non seulement en recevant le Verbe de Dieu dans son sein pour lui donner consistance humaine, mais surtout par son libre choix de s'élever au-dessus de notre condition humaine pour se consacrer totalement à Dieu. C'est notamment ce qu'exprime ce que nous célébrons tous les ans quand, au moment de la fête de la présentation de la Mère de Dieu au Temple, où elle a, à ce moment-là, accepté de migrer, si je puis dire, de migrer de la vie du monde à la vie dans le Temple. D'abord dans le Temple de Jérusalem, et puis en même temps, et à travers cela, à migrer dans le véritable Temple, qui est le Christ, Dieu et homme, qu'elle ne portait pas encore, mais qu'elle se préparait à porter, sans le savoir. Et le fait que le Père ait choisi cette femme-là entre toutes les femmes pour porter et donner naissance au Verbe de Dieu, c'était à cause de l'extraordinaire pureté, l'extraordinaire consécration de cette femme qui, assumant sa condition humaine, voulait en même temps assumer la condition divine. Autrement dit, nous avons, et c'est pour ça qu'on le met à l'égal, si je puis dire, mais après, du Christ sur l'iconostase, et dans notre piété, dans notre vénération, de même qu'il y a eu un Dieu qui s'est fait homme, il y a eu aussi un homme, ou une femme plus exactement, qui a été faite Dieu, a été divinisé, a été christifié. Et si nous aimons la Mère de Dieu, si nous avons une vénération pour elle, c'est parce que justement, elle a intégré en elle le Christ. Elle est devenue un avec le Christ. Pas seulement par sa maternité, mais par son don au Christ. Et en accomplissant cela, elle est devenue la mère de l'humanité, notre mère, parce qu'elle est dans ce genre humain, déchue depuis le paradis terrestre, elle est devenue le premier des hommes qui a retrouvé la condition normale de sa relation avec Dieu. Elle est le premier homme à avoir été crucifié, à avoir été sanctifié. Et c'est pour cela que nous l'aimons. C'est pour cela que nous la vénérons. Et la fête d'aujourd'hui de sa dormition est la conséquence de ce choix et de ce don de Dieu. De même que celui qui s'était incarné, qui a été crucifié, qui est mort et ressuscité, de même la première du genre humain, la première dans tous les sens, la première par son importance, par sa dignité, mais la première aussi dans l'ordre chronologique, si je puis dire, et après être passé par la mort, a été ressuscité par son Fils, par le Christ. C'est la raison pour laquelle, sur les icônes de la dormition, nous voyons le Christ en gloire, qui porte la momie de sa mère et de la nôtre, n'étant pas, comme on l'explique quelquefois, l'âme de la mère de Dieu, mais étant la même personne, mais ressuscitée. Ceci n'est pas une réflexion humaine, c'est une révélation. La résurrection de la mère de Dieu, après sa dormition, est un acte de foi, mais partant d'une expérience concrète des apôtres. Après l'avoir enterré, après l'avoir emmené du mont Sion à une grotte qui était sur le mont au pied du mont des Oliviers, à Gethsémani, après avoir été enterré là, par les apôtres, tous les apôtres qui étaient réunis pour son endormissement. Et après, sont allés prendre un repas commun, probablement au Cénacle. Et depuis la crucifixion, les apôtres et la première communauté chrétienne se retirer pour les agapes, pour les repas, les liturgiques, et pour se cacher parce qu'ils avaient légitimement peur. Et au cours du repas, alors que de son vivant, si je puis dire, ce vivant physique, autour de la table, qui n'avait pas la forme d'une table, le triclinium de l'époque, la place du Christ était gardée vide, et que l'on mettait, depuis sa résurrection, on mettait des pains qu'habituellement il distribuait, qu'il rompait et qu'il donnait aux disciples et aux apôtres, aux apôtres et aux disciples, à sa place vide, on avait conservé cette tradition de lui mettre des pains pour la distribution. À côté de lui, il y avait la place de la Mère de Dieu. Et ce jour-là, évidemment, on a aussi laissé sa place vide. Et au moment où la liturgie, la liturgie domestique, imposait la distribution, la bénédiction, la prière et la distribution de ces pains, alors que Pierre allait se lever pour, au nom de tous, continuer le rite habituel, la Mère de Dieu elle-même est apparue. Et c'est elle qui a pris les pains, les a élevés et les a donnés aux disciples. C'est ainsi, c'est-à-dire c'est sa première apparition, et c'est ainsi qu'on a compris qu'elle était elle aussi ressuscitée comme son Fils. Notre Christ était ressuscité quelque temps auparavant. Fort de cette expérience, les disciples sont descendus à Gethsémani et ont été ouvrir le tombeau de la Mère de Dieu, et elles n'ont pas trouvé son corps. C'est comme ça qu'on sait qu'elle est ressuscitée. Voilà la raison d'être de la fête d'aujourd'hui. Voilà, avec cette double catéchèse, aimons vraiment la Mère de Dieu pour ce qu'elle est, comme les prémices de notre vie. Nous sommes tous appelés à être christifiés, nous sommes tous appelés à être divinisés, nous sommes tous appelés à être de notre vivant même, tellement unis au Christ, que nous devons parvenir à ne plus vivre par nous-mêmes, mais à ce que ce soit le Christ qui vit en nous. Ça, c'est tout le programme de la vie chrétienne. Mais là, nous avons le modèle, la certitude, l'encouragement de voir que c'est possible, puisque au moins une y est arrivée. Et une multitude d'autres, évidemment, à sa suite, ce sont tous les saints, même si ça n'est pas passé exactement de la même manière. Et c'est la raison pour laquelle aussi, nous pouvons prier la Mère de Dieu, comme on peut prier les saints, qui nous communiquent leur expérience, qui nous font participer, parce que ils sont en nous et ils nous innervent en quelque sorte de leur être et de leur charisme, de manière à nous faire devenir des ressemblants au Christ, la christification, mais ressemblant aussi à ses membres, que sont en premier lieu la Mère de Dieu et puis tous les saints.